Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Hevels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Et Simon Martin est à la technique. Aujourd'hui, nous allons vous dire que la vie est belle. Et ceci à partir d'un texte de notre pasteur Lionel Thébault. Mais pour commencer cette émission, je voudrais vous raconter une petite histoire. Dans la culture juive du Sud, on raconte cette histoire. Il y avait une fois, à Bagdad, un calife et son vizir. Un jour, le vizir arriva devant le calife, visiblement ébranlé, tout pâle et tremblant d'effroi. « Pardonne mon épouvante, maître, mais devant le palais, une femme m'a heurté dans la foule. Je me suis retournée et cette femme, au teint pâle, aux cheveux sombres, à la gorge voilée par un foulard rouge, c'était la mort. » En me voyant, elle a fait un geste vers moi et j'ai eu peur. Je suis venue ici en courant, j'ai les tripes tout emmêlées. La mort me veut, elle me cherche. Permets-moi, je te prie, de fuir et de me cacher loin d'ici. Mon bon vizir, bien sûr, je t'autorise à fuir et à te cacher. Dis-moi simplement où tu veux te rendre, que je te donne les autorisations nécessaires. Maître, permets-moi de me rendre à Samarcande. » Le vizir enfourcha son cheval, s'éloigna au grand galop et disparut dans un nuage de poussière vers Samarcande. Pendant ce temps, le calife sortit de son palais et tomba nez à nez avec la mort. « Madame, pourquoi avez-vous ainsi effrayé mon vizir qui est si jeune et bien portant ?» La mort répondit « Oh, mais je n'ai pas du tout voulu l'effrayer. C'est juste que j'étais très surprise en le voyant dans les rues de Bagdad. Je m'attendais à le rencontrer ce soir à Samarcande. »
Nous écouterons pendant l'émission des extraits du Magnificat de Jean-Sébastien Bach par le concert d'Astrée avec Nathalie Dessay en particulier. Après qu'on ait coupé la tête de Jean le baptiseur, Jésus se retire au désert avec ses disciples. Devant la montée du mal, devant le désespoir, quelle sera sa réponse? La foule le rejoint et il a compassion. Il guérit les malades, il nourrit la foule. Après le partage des pains et des poissons, Jésus renvoie les disciples pour qu'ils traversent le lac dans une barque. Au milieu de la nuit, la tempête se lève. Les disciples rament contre les vents contraires et contre des vagues devenues terrifiantes. Leur barque est menacée et ils ont peur. Jésus les rejoint alors en marchant sur l'eau. Les disciples pensent d'abord que c'est un fantôme, mais Jésus les rassure. Pierre lui dit « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » « Viens, Pierre, » dit Jésus. Pierre sort de la barque et marche sur la mer. Mais en voyant la force du vent, il prend peur. Il commence alors à s'enfoncer et s'écrie « Jésus, sauve-moi !»
Comme les disciples au cœur de la tempête, nous nous épuisons à ramer contre les vents contraires. Nous avons le sentiment que nos pains et nos poissons sont dérisoires face à l'immensité des besoins de notre monde. Nos vies sont chargées, fatiguées. Et puis, nous sommes bousculés par le vacarme et le chaos, meurtris par la disparition des gens que nous aimons, inquiets pour ceux qui sont encore là, et inquiets aussi pour nos propres vies. Nous sommes menacés par l'angoisse, la crainte et l'agitation. Seigneur, tu nous appelles à sortir de la barque pour marcher sur les eaux mouvementées. Mais lorsque les vents se font menaçants, nous nous mettons à douter devant le mal et la violence qui gouvernent le monde. Nous prenons peur, nous perdons confiance. Nous nous enfonçons dans la crainte et l'oubli, le doute et l'indifférence.
Au cœur de la tempête, Jésus s'avance vers les disciples en marchant sur les eaux. Devant leur frayeur, il leur donne sa paix. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Il appelle Pierre à sortir de la barque, mais celui-ci s'enfonce à cause de la violence des éléments. Il crie à Jésus, Seigneur, sauve-moi. Jésus étend la main, le saisit et le ramène dans la barque. Aussitôt, le vent tombe. Devant tes peurs, Jésus comble les ravins. Face à tes doutes, il te prend par la main.
Et maintenant, nous prions avant la lecture de la Bible. Seigneur, parfois ta parole est acide et décapante, et parfois elle est douce et apaisante. Comme ce petit livre que le prophète Ézéchiel doit manger pour recevoir ta révélation. Que ton esprit souffle sur nous et ta parole sera vivante, stimulante et fortifiante. Amen.
Et nous allons lire ensemble la première épître de Jean au chapitre 1, les versets 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée et nous avons vu et nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était tournée vers le Père et s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, et notre communion est communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous vous écrivons cela pour que notre joie soit complète.
Thank you.
La vie est belle. Vous le savez sans doute, c'est le titre d'un film qui raconte comment un enfant traverse un camp de concentration porté par les histoires folles de son père. La vie est belle, c'est l'histoire de la vie qui prend corps au beau milieu de la mort programmée. La vie est belle, c'est un poème déclamé devant tous les désespoirs. Et le désespoir nous guette chaque jour. Ce qui me désespère, moi, c'est de voir combien nous cherchons sans cesse à fuir les réalités de ce monde. Si vous êtes comme moi, alors vous n'avez pas envie d'entendre les gens vous parler de leurs angoisses. Dès que quelqu'un commence à dire « j'ai peur de tomber malade », vous lui dites, avant même qu'il ait fini de parler, « oh, mais tu es en bonne santé, il ne va rien t'arriver ». Et ces réflexes-là, qui vous habitent et qui m'habitent, me désespèrent.
Il me désespère parce que ce sont des paroles qui jettent un drap sur le problème de l'autre. Dire ces paroles, c'est faire entendre à l'autre que ses angoisses ne nous intéressent pas. Et c'est le forcer à nier que ces questions le hantent. Quand vous jetez votre drap comme ça sur la personne qui vous parle, vous enfermez ces questions angoissantes dans son cœur. La personne se rend compte qu'elle ne peut pas parler de ce qui la hante, qu'elle est seule avec ses démons, sans personne pour marcher avec elle.
Il y a une manière de lire la Bible qui fait exactement la même chose. Une manière de lire la Bible qui nie les questions qui nous torturent. Par exemple, j'ai connu une femme dont l'enfant est mort tout jeune. Et en vérité, des femmes comme celle-ci, j'en ai connu plusieurs. Et vous savez, j'imagine, ce que des frères et des sœurs lui ont dit au moment même où elle demandait « Mais pourquoi Dieu a-t-il laissé faire ça ?» On lui a répondu « Dieu a un plan. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Allez vous étonner après ça que cette femme se soit détournée de l'Église et de la pratique de la foi.
Cette manière d'utiliser la Bible, c'est-à-dire de nier ce que nous ressentons au profit d'une parole qui coupe court à toute remise en question profonde, c'est exactement le contraire de ce que fait la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle, vient nous toucher en plein cœur pour nous bouleverser sans nous épargner la traversée de l'angoisse. La parole de Dieu met précisément le doigt là où nous ne voulons pas être gratouillés. Parce que c'est la seule manière de vivre la libération et dire « Dieu a tout prévu, ne t'en fais pas, oublie que tu as mal ou que tu as peur », ça n'aide absolument personne. Ce qui aide, c'est de voir que Dieu assume lui-même nos malheurs et traverse notre vie avec nous. Ce qui aide, c'est de voir que Dieu nous travaille en profondeur et nous aide à lutter contre les démons qui nous hantent.
Ce qui nous aide, c'est de savoir que Dieu nous aime tellement qu'il nous fait confiance pour prendre notre vie en main. Il croit de tout cœur que nous allons réussir. Parce que l'amour est comme ça. Il encourage, il accompagne, il souffre et il n'empêche pas l'autre de vivre sa vie comme un être responsable.
Misericordia, misericordia.
Personnellement, je trouve le projet d'amour de Dieu formidablement insensé. Extraordinaire même, je dirais. Je pense à Judas, dont nous savons bien qu'il aimait beaucoup l'argent, et pourtant c'est Judas que Jésus a nommé trésorier de l'association des apôtres. Dieu parie sur Judas. Il se dit, il risque d'échouer, mais je veux lui donner l'occasion de réussir. Donc je lui confie cette responsabilité. Cet amour, cette confiance que Dieu a placée en moi me trouble et me bouleverse. Eh Dieu, tu ne vois pas que tu t'es trompé? Tu n'as pas misé sur le bon cheval? Je sais comment je suis et tu sais comment je suis. Ce que je vais faire ne sera pas parfait. Je vais me tromper. Il y a de fortes chances que des gens auront mal au bout du compte.
Et Dieu me répond, tu vas te tromper. Oui, c'est vrai. Tu ne peux pas faire autrement. Mais je préfère que tu te trompes par amour plutôt que tu réussisses par orgueil. Voilà, ce texte est peut-être une drôle de prédication, mais c'est le message que Dieu a déposé sur mon cœur pour vous. La vie est difficile. La mort rôde sans cesse. Chaque jour, tu peux trébucher et rester sur le carreau. C'est la réalité. L'espérance de vie à la naissance est de 71 ans dans le monde, mais il y a des différences fortes entre les pays. Les Japonais ont une espérance de 84 ans, alors que les enfants nés au Sierra Leone vont vivre 50 ans en moyenne. Et bien sûr, l'espérance de vie n'est calculée que sur la base des enfants qui sont nés. On ne compte pas le nombre des grossesses qui n'arrivent pas à leur terme.
Chaque année, c'est environ 57 millions de personnes qui meurent. La mort est partout autour de nous. Il y a les guerres, il y a les accidents, bien sûr, mais aussi les maladies, qui représentent la première cause de mortalité. C'est très important d'en avoir conscience et de regarder cela bien en face. Aller faire un tour en EHPAD, aller visiter des malades en hôpital, par exemple, ou même chez eux, écouter attentivement les gens vous parler de leurs souffrances et de leurs angoisses, alors vous aurez une conscience aiguë de ces choses. Alors vous cesserez de jeter un drap sur ces angoisses, mais vous traverserez cela avec l'Esprit de Dieu. Le verset qui dit « Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi » prendra alors un sens bien différent.
Regardez la mort en face régulièrement et vous savourerez le goût de la vie. Gardez la conscience de la fragilité de la vie et vous verrez combien Dieu est extraordinaire et combien son projet d'amour et de vie est un projet fou et stimulant. Vous apprécierez alors qu'il vous appelle à changer le monde pour qu'il aille mieux. Et peut-être que vous vous mettrez en route pour mettre une petite touche de sel ici, un peu de poivre là, et puis tiens, pourquoi pas, du jaune ici, et du rouge, et du vert, et du bleu. Et soyons fous, un peu de violet et de rose dans les coins pour que tout ça rayonne encore un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a accepté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu, comme nous le dit Paul dans sa lettre aux Hébreux.
l'avons dit, la mort fait partie de la vie. C'est toujours très difficile à traverser, mais la mort n'est pas un événement exceptionnel. Elle fait même partie de ce que Dieu assume. Jésus n'a pas refusé de voir la mort en face, alors que sa mort était injuste, ignoble, et franchement, elle arrivait bien trop tôt. Jésus était bien trop jeune pour mourir. Mais, vous l'avez compris, il n'y a pas d'âge pour mourir. On peut mourir à n'importe quel âge, il n'y a pas de règle. La question n'est donc pas « quand vais-je mourir ?» mais plutôt « quand vais-je vivre ?» Je veux dire réellement vivre la vie que Dieu souhaite me voir vivre.
La vie est belle. Ce n'est pas le slogan d'un optimisme naïf et béat. La vie est belle, c'est le cri des enfants de Dieu qui voient en même temps la misère du monde et le projet fou de l'amour de Dieu. Alors, montrez à tous ceux et toutes celles qui vous entourent combien la vie est belle. En ne refusant pas de constater le malheur, tout en vivant de cette joie profonde qui vient briser les chaînes de la peur. Et nous relisons maintenant les premiers versets de la première lettre de Jean.
Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, et nous avons vu et nous rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était tournée vers le Père et s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous vous écrivons cela pour que notre joie soit complète. Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. Au lieu de la joie qui nous lui était proposée, il a accepté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu.
Que Dieu mette en vous la confiance dont vous avez besoin pour voir combien la vie qu'il vous donne a du sens. Qu'il vous nourrisse de son espérance, qui prend en compte le réel tout en voyant de quelles promesses le monde est rempli. Qu'il vous nourrisse de sa joie pour que vous puissiez redonner des couleurs là où le temps les a abîmées. Le Seigneur vous bénit chaque jour. Amen. Cette émission se termine. Je vous invite au culte qui a lieu tous les dimanches matins à 10h30 au Temple, 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Nous serions vraiment très heureux de vous y accueillir. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.